Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. I can't breathe, je ne peux pas respirer, c'est ce qu'Eric Garner a dit à plusieurs reprises le 17 juillet 2014 à New York aux policiers qu'il arrêtait pour un soupçon de trafic de cigarettes. En surpoids et asthmatique, ce père de famille noire de 44 ans est finalement mort. Les policiers n'ont pas été condamnés par la justice, mais un procès disciplinaire au sujet de cette arrestation a lieu aujourd'hui. L'affaire avait suscité beaucoup d'émotions aux États-Unis, dans les milieux sportifs et artistiques et dans la population, renforçant le mouvement Black Lives Matter, né de cas comparables. Après des années de mobilisation, où en sont les droits des Noirs américains? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Charlotte Recoquillon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe, chercheuse rattachée à l'Institut français de géopolitique, spécialiste des États-Unis, et vos recherches actuelles portent sur les violences policières, le racisme, la culture des armes à feu et le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Et Nicolas Martin-Breteau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien des États-Unis, maître de conférences à l'Université de Lille, spécialiste de l'histoire africaine-américaine, auteur de la traduction de « Les Noirs de Philadelphie » de W.E.B. Du Bois, c'est à paraître fin 2019 aux éditions La Découverte, et de l'ouvrage qui est issu de votre thèse sur le rôle politique du sport dans le long mouvement pour les droits civiques, c'est à paraître en 2019 aux éditions de l'EHESS. J'ai évoqué les droits des Noirs aux États-Unis, mais j'aurais tout à fait pu parler de leur situation en général, dans son ensemble, parce que ce n'est pas une question uniquement juridique. D'abord, nous allons peut-être essayer de définir de quoi on parle. Les Noirs américains, est-ce que c'est un ensemble vraiment homogène? Combien sont-ils? Et puisqu'on parle de race, ce qui est un concept très discutable hein, d'un point de vue scientifique, comment est-ce qu'on définit les Noirs aux États-Unis, Charlotte Recoquillon?
Alors effectivement, de qui on parle? On parle d'une catégorie sociale qui est donc une construction sociale et évidemment pas du tout une catégorie essentialisée sur le plan biologique, scientifique, évidemment pas. Le concept de la race aux États-Unis part du principe de l'expérience. On est racisé du fait d'être perçu par les groupes dominants et les groupes au pouvoir comme des groupes inférieurs ou infériorisés.
La théorie je sais pas si c'est une théorie d'ailleurs, Nicolas Martin-Breteau, du one drop, une seule goutte de sang noir suffit à vous définir comme noir, c'est ça? C'est ce qui est communément accepté aux États-Unis?
Historiquement, c'est tout à fait exact. Depuis la période de l'esclavage, un seul ascendant de sang noir, entre guillemets, vous fait noir, même si votre apparence phénotypique, c'est-à-dire votre apparence physique, est en réalité l'apparence d'une personne blanche.
La mort d'Eric Garner, c'était en 2014. Le président, c'était Barack Obama. Qu'est-ce qu'il a fait pour les droits des Noirs, Charlotte Recoquillon? Est-ce que ça a beaucoup progressé sous la présidence Obama, qui donc était le premier président noir américain?
Alors, c'est une question très, très, très vaste.
Selon la définition, premier président noir, selon la définition qui vient d'être donnée. Oui, je sais que c'est une question vaste.
Il faut bien comprendre que sur le plan... il y a différents plans. Il y a le plan des violences policières et du rapport police-population qui est un aspect de la situation plus générale des droits des Noirs et de la situation sociale des Noirs. Sur le plan de la police, c'est une institution qui est extrêmement décentralisée aux États-Unis et donc le pouvoir n'est pas détenu par le président des États-Unis.
Les polices sont, enfin, municipales.
Il y a 18 000 départements de police qui sont indépendants les uns des autres. Obama n'avait pas spécialement de pouvoir spécifique. Obama lui-même était très critiqué par Black Lives Matter parce qu'il a une approche sur la question notamment des jeunes hommes noirs urbains qui était celle qu'on appelle de la politique de respectabilité, c'est-à-dire qu'il mettait beaucoup d'importance sur le comportement et l'attitude des noirs eux-mêmes comme pouvant être potentiellement responsables de ce qui leur arrivait dans les confrontations avec la police.
Ça veut dire quoi? Quel type de comportement? De quoi il parlait?
En fait, c'est extrêmement subjectif, mais c'est... par exemple, tout ce qui est critiqué sur l'habillement, sur le langage, sur des attitudes qui ne seraient pas polies ou qui ne seraient en tout cas pas les normes conventionnelles de la classe moyenne et de la classe supérieure, et qui seraient supposément responsable ou suffisante pour expliquer qu'il y a plus de contrôle d'identité, qu'il y a donc plus de dérapage dans ces contrôles, etc. Donc Obama était très critiqué là-dessus.
Nicolas Martin-Breteau, vous portez vous-même d'ailleurs un sweatshirt à capuche. Si vous étiez noir aux États-Unis, peut-être ça serait retenu contre vous. C'est en fait ce qui vient d'être expliqué, quoi, tout simplement.
Absolument. D'ailleurs, il y a eu ces dernières années des mouvements revendiquant le port du sweatshirt à capuche comme une sorte de geste militant de solidarité avec les Noirs américains, précisément pour dénoncer un certain nombre de préjugés qui ont encore lieu dans la société américaine et qui font que, statistiquement, eh bien, les jeunes hommes noirs en particulier, mais pas seulement, sont largement plus victimes de violences policières que les autres, en particulier, comme cela a été dit à juste titre, concernant leur tenue vestimentaire, qui parfois est rapprochée de comportements ou d'attitudes louches, peu respectables, etc.
Violence policière, oui, pardon, Charlotte Coquillon,
oui, vous voulez réagir. Oui, je voulais ajouter, notamment parce que ça fait écho à ce que à la mort d'Eric Garner, c'est que quand il a été tué par le policier en question, Pantaleo, il est très connu pour avoir dit je ne peux pas respirer, je ne peux pas respirer, mais il a dit autre chose lors de son interpellation. Il a dit ça suffit, ça s'arrête aujourd'hui, vous me harcelez tout le temps, tous les jours vous m'interpellez, etc. Et il a répété it stops today. Mmh. Et donc ça attire l'attention sur ce qu'on appelle la politique de la fenêtre cassée et le fait que la police depuis les années 80 et 90 surtout se concentre essentiellement sur les petits délits, les petits crimes, les infractions finalement des classes inférieures.
La politique de la fenêtre cassée, ça veut dire qu'il doit y avoir une réponse à chaque petit délit, chaque petite infraction. On ne laisse rien passer, c'est ça que ça veut dire, Nicolas Martin-Breteau ?
Exactement, c'est une théorie politique et sociale qui est fondée sur l'idée de la boule de neige. C'est-à-dire que si on laisse des vitres cassées non réparées dans un quartier, par exemple, c'est-à-dire si on laisse perdurer surviendront de grandes incivilités. C'était le soubassement des politiques qui ont été menées, notamment dans la ville de New York, pour débarrasser la ville, entre guillemets, des personnes les plus pauvres. Et aujourd'hui, la ville de New York est clairement... beaucoup moins dangereuse de ce point de vue que dans les années 70 et 80, au prix, en réalité, d'un évincement des classes populaires à l'extérieur de ses limites.
Avec la petite précision qu'on a observé cette baisse de la criminalité dans absolument toutes les villes américaines, même celles qui n'ont pas employé de politique aussi brutale que la vitre cassée.
Ça veut peut-être dire que ce n'est pas ça la clé, c'est peut-être
à discuter effectivement.
Ah, bien sûr, oui, elle est contestée.
Vous parliez des Noirs victimes de violences policières, ce sont aussi c'est le groupe ethnique socialement construit donc, qui est le plus incarcéré aux États-Unis, Nicolas Martin-Breteau. Il y a combien de Noirs qui sont en prison? En préparant cette émission, j'ai découvert que le Black Panther Party, qui est l'héritier des Black Panthers des années 60-70, expliquait qu'il y avait aujourd'hui plus de Noirs emprisonnés aux États-Unis que de Noirs esclaves au temps de l'esclavage avant 1870.
Effectivement, il y a des débats sur ces questions aujourd'hui. Il y a environ 2 100 000 personnes incarcérées aux États-Unis, ce qui fait des États-Unis la puissance ou le pays qui incarcère le plus ses habitants, ses ressortissants dans le monde, devant la Chine. Parmi ces personnes incarcérées aux États-Unis, une surreprésentation des personnes issues des minorités ethniques, et en particulier des Africains-Américains. Ça date des années 1960-1970, lorsque les gouvernements en place, et en particulier les gouvernements républicains, mais pas seulement, ont lancé de vastes politiques de lutte contre la drogue, comme il l'appelait, donc la guerre à la drogue, aux États-Unis, et qui a mené à une multiplication des peines pour des petits délits, en particulier les petits délits de consommation ou de détention de petites quantités de drogue, qui ont clairement surpeuplé les prisons américaines, amenant à la conceptualisation d'un phénomène récent qu'on appelle mass incarceration et aux États-Unis, et qui veut dire que cette incarcération massive s'est largement portée sur les Africains-Américains en particulier.
Et la conséquence, dans l'esprit de beaucoup d'Américains, Charlotte Coquillon, c'est que Noir égale criminel en puissance, c'est...
Ah oui, effectivement. Alors ça, c'est une question compliquée parce que quand on pointe du doigt l'inégalité, enfin en tout cas la disproportion d'incarcération des Noirs dans les prisons américaines, certains vont répondre que c'est parce qu'ils commettent plus de crimes. Or, tous les chiffres montrent que c'est aussi parce qu'ils sont plus contrôlés, plus condamnés,
arrêtés,
plus sévèrement punis, que on sait que la prison a un effet délétère et va conduire à la récidive. Enfin bref, c'est un enchaînement de faits.
Les Noirs, les Africains américains qui sont incarcérés, et là je reviens sur la question des droits et notamment des droits civiques, est-ce qu'ils sont en général privés de leurs droits civiques, Nicolas Martin Breteau?
Alors ça, c'est un des grands sujets qui a été mis sur le devant de la scène par le mouvement Black Lives Matter. Oui. Et vous avez raison de le noter parce que les détenus aux États-Unis perdent de fait, pour certains d'entre eux, un certain nombre de droits civiques. C'est notamment le cas des détenus africains-américains qui reviennent à la vie civile. Ils peuvent être privés, par exemple, du droit de postuler à un logement public ou, par exemple, du droit de voter. Et ça, c'est un enjeu essentiel de ces dernières années, la privation massive du droit de vote des minorités raciales, en particulier des Noirs américains, qui fait que pèse sur eux une menace tout à fait particulière à l'intérieur de la démocratie américaine, c'est-à-dire l'exclusion de la vie civique.
Mais comment ça se passe, Charlotte Recoquillon, concrètement? Comment est-ce qu'on arrive à priver des Noirs américains, mais pas uniquement, d'autres minorités, des pans entiers de ces minorités du simple fait de droit de vote, quoi?
Alors, encore une fois, il y a une géographie inégale hein, aux États-Unis, puisque selon les États, il n'y a pas les mêmes lois. Mais des États comme la Floride, par exemple, qui sont extrêmement sévères sur ce plan-là, supprime à tous les condamnés pour des faits graves, pénaux, ce qu'on appelle les felons, leur retire le droit de vote définitivement. Dans certains États, c'est temporairement, etc. Donc il y a des variations. Donc une fois qu'on a été condamné, même à la sortie de prison, on n'a plus le droit de voter. Aux dernières élections, un référendum populaire a rétabli le droit de vote pour 1,5 million d'anciens condamnés, d'anciens prisonniers en Floride. Mais récemment, il y a un mois ou deux, les élus républicains de l'État ont voté une loi qui exigeait que pour récupérer leur droit de vote, les personnes payent tous les frais de justice, etc., discriminant une fois de plus les plus pauvres et les Noirs de l'État. Donc concrètement, c'est comme ça, c'est une chaîne de discrimination.
Est-ce qu'il y a des petites, j'allais dire vexations, mais dans les méthodes pour retirer, parce que c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer, pour retirer volontairement le droit de vote à des membres de minorité, par exemple le fait qu'il faut absolument avoir une pièce d'identité avec une photo et tout le monde n'en a pas aux États-Unis, Nicolas Martin Breteau?
Oui, absolument. C'est donc la question de la privation du droit de vote est, me semble-t-il, une question centrale aujourd'hui dans les droits des Africains-Américains. Effectivement, un des stratagèmes utilisés, c'est priver du droit de vote un certain nombre de condamnés revenus à la vie civile, mais vous avez d'autres stratagèmes utilisés comme des lois tout à fait tatillonnes sur les papiers d'identité à présenter le jour de l'élection, où il faut un certain type de photo d'identité qui n'est délivrée que par certaines administrations. Et on sait très bien que plus vous êtes de milieu populaire, moins vous serez susceptible de pouvoir produire ce genre de papier d'identité. On peut aussi réduire les heures de early voting aux États-Unis, c'est-à-dire le vote par anticipation. Ces heures de vote par anticipation peuvent être réduites. On peut déplacer les bureaux de vote, fermer les bureaux de vote. On peut rendre plus difficile l'enregistrement sur les listes électorales. Tout un tas de stratagèmes qui privent des millions d'Américains du droit de vote aujourd'hui.
Il y a des États du Sud où pour s'inscrire sur les listes électorales, c'est seulement quelques heures d'ouverture d'un bureau à des dizaines de kilomètres, sans bus, etc. Pour les personnes les plus pauvres et les plus marginalisées de la société, c'est absolument le parcours du combattant pour s'inscrire.
Vous diriez tous les deux que les droits civiques des minorités sont en recul aux États-Unis à l'heure actuelle?
Non. Non. Enfin,
sur le point du droit de vote, oui.
Oui.
Ah, moi, je pense que c'est un sujet qui est extrêmement préoccupant, qui, vient, pour le dire clairement, Prenons l'exemple de la Floride. La Floride a déclenché ce mouvement en partie parce que en 2000, le candidat George Bush l'emporte sur le candidat démocrate Al Gore, en partie grâce à quelques voix justement dans l'État de Floride. Mmh. Voyant cette difficulté à faire élire leur candidat, il faut bien dire que les élus républicains, que ce soit des élus nationaux ou dans les chambres des législatures d'État, ont mis en place un certain nombre de stratagèmes qui vise explicitement à exclure du processus électoral une large part de la population américaine. La plupart des élections présidentielles, c'est-à-dire 6 élections présidentielles sur les 7 dernières, ont été perdues par les républicains en ce qui concerne le vote populaire. Pour eux, c'est un enjeu de survie politique.
Charlotte Recoquillon, oui, vous
voulez dire quelque chose là-dessus ? Oui, je voulais juste clarifier pourquoi je dis non, parce que je dis non dans le sens où, selon moi, ça a été toujours un enjeu, en fait. Depuis les années 60 et le Voting Rights Act, en fait, il n'y a pas eu vraiment d'embellie des droits de vote, etc., enfin, ou très peu, très courte. C'est pour ça que, voilà, je disais ça, parce que c'est pour moi un enjeu, un rapport de force constant. Et d'ailleurs, il y a aussi des tactiques d'intimidation. Par exemple, il y a une femme dans l'Alabama ou au Mississippi qui, en allant s'inscrire sur les listes électorales, s'est retrouvée emprisonnée pour un fait vraiment administratif, enfin une bêtise, et elle a été libérée là de prison il y a quelques jours, et elle va faire face à un procès, etc. Donc il y a aussi des tactiques d'intimidation très très fortes. Donc c'est pas un sujet sérieux, c'est que ça a toujours été un enjeu de bataille très fort.
La situation a-t-elle empiré? C'est peut-être un peu naïf comme question, hein, sous Donald Trump. Quelle a été l'évolution, Nicolas Martin Breteau? On parlait de Barack Obama tout à l'heure en disant qu'il n'avait peut-être pas forcément été très en pointe là-dessus. Est-ce que c'est pire aujourd'hui?
Bah alors, pour continuer et terminer peut-être sur la question du droit de vote, en fait, ça a empiré sous Barack Obama, mais sans que lui le veuille. Son élection a accéléré les processus d'exclusion du droit de vote d'un certain nombre de personnes issues des minorités. C'est-à-dire que son élection, qui a été inouïe dans l'histoire américaine, puisque c'est le premier président noir élu à la présidence de la République américaine, a déclenché une multiplication de ces politiques au niveau local. Maintenant, Barack Obama, il faut se souvenir qu'il a été élu dans l'un des pires moments de l'histoire économique américaine. Il a fait face à une crise financière massive qu'on a appelée aux États-Unis la grande récession, et qui a extrêmement durement frappé les communautés les plus pauvres du pays, et en particulier la communauté africaine-américaine. Sous son mandat, sous ses deux mandats, la situation de cette communauté africaine-américaine s'est plutôt améliorée, même si son élection a été du coup a déclenché un sentiment d'inachevé, puisque il n'a pas pu évidemment répondre à l'ensemble des promesses que sa candidature et surtout son élection avait suscité.
Charlotte Recoquillon.
Il me semble que on est surtout revenu de ce qui était un mythe total de l'Amérique post-raciale. Donc en fait, là, on a l'impression que ça s'est aggravé juste parce qu'on a retiré nos lunettes noires et que maintenant on voit réellement la situation. De ce point de vue-là, je trouve que c'est une des avancées et des victoires majeures du mouvement Black Lives Matter, par exemple. C'est d'avoir vraiment remis au centre du débat public, du débat médiatique, etc., les relations raciales aux États-Unis. Alors, même s'ils ont rencontré, après je pourrais peut-être donner quelques exemples, mais ils ont eu des victoires et des avancées, ceci étant dit, pour la situation sur le terrain, on peut dire que, par exemple, le nombre de morts par la police reste à peu près stable. Donc, il n'y a pas vraiment de révolution non plus en termes de vie des Noirs aux États-Unis.
Et malheureusement, vous ne pourrez pas donner quelques exemples, car nous avons beaucoup parlé. L'émission est quasiment terminée. Merci, Charlotte Recoquillon. Merci à vous également, Nicolas Martin Breteau, d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Déborah Lepage à la coordination, Charles Barré à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique émission. Participez au débat du jour sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.